שלום, שלום לכולם, ערב טוב לכולם. Donc, faites-moi un petit signe, est-ce que tout marche comme il faut? Erev Tov. Voilà, donc Laurent, ça a l'air de marcher. Yofi. Voilà. En régie, Midreshet Yehuda, est-ce qu'on peut y aller? Oui, non, non. Voilà, je vois un deuxième oui. Donc, on va se dire que c'est bon. Yala, j'ai eu le OK de Midreshet Yehuda. C'est parti. Erev Tov, les Koulam. Ce soir, on a du boulot. On a du boulot parce que Parashat Balak, c'est un gros, gros, gros morceau. Donc, bah, sans plus tarder, je vous amène au détour de grandes questions existentielles pour nous. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on soulève une réalité assez intéressante, c'est que notre paracha est, j'ai envie de dire, fondamentalement différente des autres parachotes de la Torah. Je ne dis pas cette fois plus importante, tout ça, mais je dis fondamentalement différente. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la seule paracha de toute la Torah. Alors, je mets évidemment Bereshit, la paracha de Bereshit de côté, de la création, évidemment, mais depuis, on va dire, le début du livre de Shemot et jusqu'à la fin de la Torah, eh bien, si vous voulez, tous les événements qui sont mentionnés dans la Torah ont été vécus par les protagonistes ou par leurs parents. Et si on remonte jusqu'à Bereshit, alors par leurs ancêtres. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne la Torah à Moshe à la fin de la 40e année du désert, que Moshe va la transmettre au Ham Israël. Imaginez-vous deux secondes, un juif qui reçoit la Torah et qui voit dedans, il commence à ouvrir et il dit, et il lit Parashat Kitissa et il lit la Parashat du Vaudor. Et bien, il se dit, waouh, tu te rappelles, waouh, le Vaudor, nos parents, ils nous ont raconté, ça devait être quelque chose. Et ainsi de suite, toutes les parachiotes. Ah, tu te rappelles les explorateurs et tout ça. Mais là, lorsque le Ham Israël a lu la Parashat de Balak, il a dû tomber des nues parce qu'il n'était pas du tout au courant. La paracha de Balak est la seule paracha qui est une paracha complètement extérieure au peuple d'Israël. Il semblerait que se joue quelque chose autour du peuple juif, mais le peuple juif n'est pas acteur. Qu'est-ce qui se joue dans notre paracha? Quelle est la grande, si vous voulez, la grande question de notre paracha? Alors les amis, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais vous emmener à quelque part qui n'a rien à voir avec la paracha. Voilà, on sort de la paracha complètement et on arrive dans le livre de Shemot. Donc un livre qu'on connaît bien, qu'on a déjà étudié. Et dans ce livre de Shemot, eh bien, quand on va parler de la sortie d'Égypte, quand on va parler de ce que Dieu veut qu'on transmette à nos enfants, à nos petits-enfants, et suite à la sortie d'Égypte, eh bien, il y a un moment donné où Dieu va nous dire: voilà quelle est ma carte de visite. Voilà ce que j'ai envie que vous transmettiez à vos enfants, vos petits-enfants et à petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Oui, Muriel, ça a commencé. Donc, Dieu nous dit: voilà ce que j'ai envie que vous transmettiez à vos enfants, petits-enfants et ainsi de suite. Le ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. Voilà ce que tu devras raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Quoi? Et asher italalti bemitzraim. Quoi? C'est ça la carte de visite de Dieu? Le man te saper beozne binra ou ben binra et asher italalti bemitzraim. Tout ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est que Dieu a persécuté l'Égypte. Les italel, vous leur dire persécuté? C'est uniquement ça qui nous intéresse? Bizarre, cette histoire. Bizarre que ce soit ça, la carte de visite du Créateur. Je vais y revenir. Mettez ça dans un coin de votre tête. On y reviendra à cette notion de l'Eitalel. Je reviens à notre paracha. Je reviens à notre paracha qui va mettre en scène deux personnages, Balak et Bilam, qui ont un point commun. Ce point commun, c'est d'être des grands. Des grands quoi? Des grands antisémites. Alors, j'ai donné ce cours-là, peut-être que certains ont déjà commencé à l'entendre. Quelle est la différence entre un grand antisémite et un petit antisémite? On ne va pas s'occuper que de ça aujourd'hui. Mais c'est quoi le grand antisémitisme et le petit antisémitisme? Eh bien, le petit antisémitisme, alors j'ai raconté cette anecdote, Donc, ceux qui l'ont déjà entendu une fois cette semaine, eh ben, ce n'est pas très grave. Mais le petit antisémite, c'est le mec qui, bah, on lui a dit qu'il ne fallait pas aimer les Juifs. Il ne sait pas trop pourquoi. Il ne sait pas qui c'est, les Juifs. Il n'y connaît pas grand-chose. C'est comme ce que j'avais raconté, voilà, que l'année dernière, quand j'ai été faire un Shabbat de formation de jeunes de la communauté juive en France, eh bien, le rendez-vous était le vendredi midi à ce qu'on appelle Porte Clignancourt, à Paris. Bon, moi, je ne connais pas très bien Paris, je ne viens pas de là-bas, je viens de Metz, a priori, donc bon. Et lorsque j'arrive métro Porte de Clignancourt, eh bien, je comprends assez rapidement que, me baladant avec ma kippa et mes tzitzit, eh bien, je déteins dans le paysage grandement. Et alors, j'ai rencontré un autre personnage qui était aussi un des formateurs qui était là-bas, un autre Israélien, qui lui aussi, kippa, tzitzit, enfin, non, il n'avait pas de tzitzit dehors, lui, mais kippa et sandales. Sandales, c'est un autre level. Hein. Moi, je n'étais pas prêt à être en sandales à Paris. Mais après que le responsable du groupe nous dise que le bus partira seulement dans 20 minutes, une demi-heure, alors ce copain me dit, bah, viens, on va prendre un café. On y va. On va dans le bistrot à côté. Et alors qu'on rentre dans le bistrot, vous savez, c'était la scène du saloon où tu as le desperados qui rentre dans le saloon et tout d'un coup, tout le monde a fait mute sur le Zoom. Pas un bruit. Évidemment, deux juifs en kippa comme ça rentraient tranquillement dans un endroit où les gens étaient beaucoup plus bronzés que moi. Et le vendeur, le barman, nous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, mon copain, il dit bah, « Moi, un café ?» Et moi, je dis « Un Orangina. » Et le mec nous dit « Bon, bah, alors, je vous sers rapidement, mais buvez-le dehors. » Ah oui, parce que c'est dangereux. Et pendant les quelques minutes où on attend au coin du bar, eh bien, il y a deux personnes à côté de nous au bar qui nous regardent de manière particulière. Je ne sais pas si j'avais été tout seul, si les choses n'auraient pas dégénéré. Mais heureusement, il y avait avec moi cette autre personne qui a fait bah, la psychologie inversée, qui les a pris là où ils ne s'y attendaient pas du tout. Il les a regardés tous les deux et leur a dit en arabe « Comment ça va mon frère ?» Et là, ils étaient choqués. « Ah quoi, tu parles arabe et tout ?» Et donc après qu'on ait, pas sympathisé, mais discuté calmement et qu'ils nous disent « Oh tu sais mon frère, c'est pas bien ce que vous faites aux Palestiniens, franchement, c'est pas cool. Hein. » Moi, j'aurais dit « Vous savez quoi ? Yala, c'est pas cool. » Je portais dans mon sac mes activités que j'avais prévues pour le Shabbat et parmi les activités, j'avais une carte. J'aurais sorti ma carte du monde et je leur ai dit, voilà les amis, est-ce que vous qui êtes des grands défenseurs de la cause palestinienne, pouvez me dire où c'est la Palestine ? Évidemment que non. Évidemment qu'ils m'ont montré vaguement le Congo, tu comprends ? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de où c'est Israël, la Palestine. Ils ne connaissent rien. On était peut-être les premiers juifs qu'ils avaient vus de près depuis toujours. Mais qui sont ça ? C'est le petit antisémite. Stam, ce petit antisémite, il peut être de foi musulmane, il peut être d'extrême droite chrétienne, c'est l'homme échaîné. Le mec qui va faire son pogrom au 17e siècle, au 18e, c'est un petit antisémite. Le grand antisémite, en général, celui qui l'envoie. Ce sont les gens derrière, qu'on ne va pas voir taper, mais qui viennent avec des idées. Balak est un grand antisémite. D'où on le sait ? Eh bien, on voit qu'il va réunir donc une coalition derrière lui. Il va aller chercher Bilam pour maudire l'Ebné Israël. Pourquoi ? Parce qu'il vient de voir qu'Israël a réussi à battre Sichon et Og. C'est le premier verset de la paracha. « Vayar Balak ben Tzippor » Je reprends le verset, Slicha. « Vayar Balak ben Tzippor et kol asher asa Israël l'Emori » C'est-à-dire que c'est parce qu'Israël est en train de retrouver sa place parmi les nations que Balak se sent agressé. Ceci étant, il dit lui-même qu'Israël va tout raser autour de lui comme un taureau, un bœuf, qui mangerait l'herbe autour de lui. Avalhu Yoshev Mimouli. C'est-à-dire, Balak est en train de nous dire, les bénis Israël, ils sont tels un bœuf qui va tout raser autour de lui. Moi, je ne crains rien. Dans le machal, vous savez, la langue de bœuf qui va sortir et qui va prendre toute l'herbe autour de lui, la seule herbe qui ne craint rien, c'est l'herbe qui est juste en dessous du menton. Et c'est ce que Moab dit, ce que Balak dit, le roi de Moab, il dit, moi je ne crains rien. Où Yoshev Mimouli, il est face à moi. D'autre part, je sais qu'il y aura marqué dans le livre de Dvarim que Bichlal, on n'a pas le droit, nous, Béné Israël, de faire la guerre à Moab. Donc, il ne craint rien, Moab. C'est genre le mec qui dit, ah non, mais ce n'est pas pour moi que je le fais. Hein. Moi, je suis complètement désintéressé. Hein. Moi, je ne crains rien d'Israël. C'est pour le monde. Et on va faire appel à Bilam. Aïe, 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 Bilam. Bilam, c'est un grand antisémite. Qu'est-ce que je veux dire par un grand? Un grand, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce que représente le peuple juif. Et c'est parce qu'il le sait et parce qu'il n'en fait pas partie qu'il a une jalousie extrêmement profonde. Le petit antisémitisme, Zebaktana, le grand antisémitisme, c'est Kinaa, Shemotzi et Adam Mina Olam. C'est pas Kinaa, ouais, les juifs, ils ont de l'argent, moi, j'ai pas de l'argent. C'est Katan. C'est je sais reconnaître ce que représente le peuple juif dans le monde, et moi, je n'y ai pas accès. Dans l'histoire, on a eu beaucoup de petits antisémites. Mais on a eu également, à chaque fois, à chaque époque, et à chaque époque particulièrement, où il y avait une fenêtre pour que Am Israël puisse se réexprimer en tant que tel, eh bien, est arrivé le grand antisémite de ce moment-là et a commencé à parler. Si je voulais aller de manière crescendo, alors je vous fais une liste non exhaustive, ceux qui ont entendu le cours, eh bien, vous savez. Il y a le premier, alors je mets Bilam de côté, on y reviendra à Bilam, bien sûr, mais le premier grand antisémite de l'histoire qu'on connaît, il n'est autre que Monsieur Appion. Appion, il y a tout un livre écrit par Flavius Josèphe qui s'appelle Contre Appion. C'était un prêtre helléniste du 1er siècle qui va être un des premiers grands antisémites, hein, argumentaire classique, que nous on connaîtra beaucoup plus tard. L'une des choses qu'il dit, c'est que les Juifs se moquent de toutes les autres religions. Appion comprend très bien que Am Israël prône quelque chose. Ce quelque chose, en l'occurrence, c'est le monothéisme. Et puisque lui-même est bien conscient que ça sonne juste, il faut bien comprendre une chose, les idolâtres, quand ils voient Am Israël apparaître, ils ont bien conscience que ça sonne vrai. Appion ne peut pas le supporter. Après lui, on aura les premiers fondateurs du christianisme. Paul, en premier lieu, Shaoul de Tarse, un grand antisémite qui vient de chez nous, qui comprend très bien que la relation à Dieu passe par l'action. Parce que l'action est la traduction de tes pensées. Si tu as des pensées morales, positives, de bonté, mais que tu te comportes comme un pourri, les mitzvot sont la traduction de la pensée de la volonté du Créateur. Paul, lorsqu'il enlève les mitzvot, il comprend à quel point s'attacher à Dieu par l'action est fondamental, et c'est ce que lui ne veut pas faire. Après, on verra un monsieur comme Augustin, un des quatre pères de l'Église, le créateur du mythe du déicide, celui qui va lancer les premiers pogroms de l'histoire, que les chrétiens appelleront Saint Augustin, qui pourrissent jusqu'à la fin des temps. Dans des excréments bouillis, Amen, Keni Ratson. Augustin, qui comprend très bien ce que représente le judaïsme. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, lorsque les chrétiens viennent et disent on a tué Dieu, ils sont débiles? Non, ils ne sont pas débiles. Ils ne sont pas du tout débiles. Ils ont juste quelque chose. C'est que, comprenant bien qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu a fait un choix de choisir le peuple d'Israël pour faire la jonction avec le monde, celui qui n'est pas dedans se voit exclu et donc dit, bah alors vous avez tué Dieu. Ou alors vous avez tué la relation avec Dieu et donc il va falloir vous remplacer. Augustin va être un des instigateurs du Verus Israël, du vrai Israël, on prend votre place. Plus tard dans l'histoire, au 7e siècle, on verra arriver Omar, le premier calife, remplaçant de Mohammed. Mahomet. Omar va inventer la dhimmi, le fait que les Juifs ne peuvent n'exister qu'en tant que soumis. Évidemment, il comprend très bien qu'il est le fils, que ce soit biologique ou spirituel, d'Ishmaël. Si Israël est le fils de Yitzhak, il est l'héritier légitime et lui n'est que le fils de la servante. Il veut donc inverser les choses, faire en sorte que eh bien, lui devienne le fils légitime et Amalek soit celui de la servante. Le premier antisémite n'est-il pas Amalek? Amalek, Aïn, mistakelet, lève, canaille. Amalek, c'est encore autre chose. Amalek, Aman, Hitler, bien sûr qu'ils sont antisémites. Il y a pas de, enfin, c'est pas des philosémites, les mecs. C'est pas des amoureux du peuple juif. C'est une évidence. Mais Amalek et tous ses ressemblants, alors que les autres ont un problème de jalousie parce qu'ils voudraient faire partie du peuple juif, et comme ils ne peuvent pas, eh bien, ils ont un problème. Eux veulent annihiler le peuple juif. C'est complètement différent. Bilam ne veut pas annihiler le peuple d'Israël, il veut le maudire. C'est autre chose. Donc, si vous voulez, Amalek, c'est la volonté qu'il n'y ait pas à Israël. C'est encore une autre histoire, on en parlera à un autre moment. Bekitsour, après notre Omar, va arriver l'Inquisition, à partir du 11e, 12e siècle. Et je prends comme pour nommer, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est juste le plus connu, Torquemada, évidemment. Évidemment que l'Inquisition, justement, a un terrible problème avec Israël parce qu'ils savent très bien ce qu'ils représentent pour de vrai. Et c'est ça qui les dérange énormément. Jusqu'à arriver au 19e siècle, où on a de nouveau, cette fois un antisémitisme laïque, n'est plus rattaché à la doctrine chrétienne. On va le retrouver dans le plus grand penseur du 19e siècle, notre ami Friedrich Nietzsche. Et ne venez pas me dire, non, mais c'est sa sœur qui était antisémite, elle a falsifié ses textes. C'est vrai que sa sœur était antisémite, elle était rattachée au parti nazi, tout ce que tu veux. Et c'est sûr que c'est elle qui a donné une grande partie de ses textes au régime nazi, pas de problème. Elle est pourrie aussi. Mais lui, c'est autre chose. Nietzsche connaît très bien le peuple juif. Il a un profond respect pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il le déteste. Parce qu'il sait très bien ce qu'il représente. De dire que la morale a affaibli l'Europe, ça ne vient pas au départ de Hitler. De comprendre qu'Amisraël représente la morale sur Terre. Et que donc c'est un problème parce que c'est la morale qui affaiblit l'homme. Ça ne vient pas de nulle part. Pourtant, d'un autre côté, alors que Nietzsche a tous ses problèmes internes, il sait reconnaître, il dira dans l'Aurore, l'aurore, je ne sais plus comment ça a été traduit en français, il dira que les soleils tombent, le monde change, et le Dieu d'Israël, le plus ancien de tous, revient dans son monde, va libérer son peuple, et tout le monde se réjouira dans sa joie. Il est plein de contradictions, le bonhomme, mais une chose est sûre, il connaît la valeur du peuple juif. Jusqu'à nos antisémites du XXe siècle, Alain Soral, Dieudonné et autres, qui s'en cachent bien, qui se gardent bien, c'est-à-dire pas cachent bien, mais se gardent bien de dire officiellement qu'ils n'aiment pas les juifs. Non, ils te disent au contraire, ils n'aiment pas le projet sioniste, le projet communautaire organisé, ainsi de suite. Et parce que tu vois dans leurs déclarations qu'ils ont étudié, ils savent très bien ce que ça représente, le peuple juif. Le grand antisémite, c'est Bilam. Oh combien il connaît le peuple juif. Mais bien sûr, d'où il vient Bilam? C'est qui Bilam? Eh bien, d'après nos sages, Bilam n'est autre que le petit-fils de Lavan. Lavan, alors je ne sais pas si c'est vraiment son grand-père ou c'est juste son petit-fils spirituel, l'homme chané. Torah ta Gilgoul pourra nous apprendre que c'est son fils, mais... Enfin, c'est son Gilgoul, l'homme échané, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce qu'il a appris, il le tient de lui, de Lavan. Lavan connaissait, comment il connaissait Yaakov. Yavan, c'est notre Mechoutan, Lavan. Lavan, c'est notre père, quelque part, notre grand-père. Il est le père de Rachel et Léa. Et quel est tout son objectif à Lavan? Faire en sorte qu'Am Israël ne puisse pas devenir Am Israël. Faire en sorte que Yaakov ne devienne jamais Israël. Lavan rotse la akor et akol. Il veut tout déraciner. Bilam, lorsque les envoyés de Balak viennent le voir, il dit très bien, écoutez, moi je ne peux rien faire contre Am Israël. De toute façon, tout ce que je peux faire, c'est ce que Dieu dit. Il connaît Yutke Vavke. Donc, ça veut dire qu'il sait très bien que Yudke Vavke a choisi Am Israël. Donc, il le sait aussi très bien qu'il ne pourra faire que ce que Dieu accepte qu'il fasse. Alors, pourquoi il y va? Et pour une raison très simple. Lavan se dit, mais Am Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas le Am Israël que Dieu a sorti d'Égypte. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Pourtant, tu vois dans la paracha que si Balak n'était pas venu le chercher, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de lui. Ah, très bonne question. Peut-être que si Balak n'était pas venu le chercher, on n'aurait jamais entendu parler de lui. C'est pour ça que le Midrash nous dit que pourquoi Balak a été demander conseil au Sarné Midian. C'est vrai, je reprends le verset au tout début de la paracha. Regarde. Vayar bila Balak ben Tzippor et Shekol Shor Asa Yisrael Emori Vayagor Moav Mipenei Ha'am Me'od Kiravu Vayakom Moav Mipenei Bnei Yisrael Vayomer Moav El Zikne Midian Ata Yelachechu Hakal Et Kol Sivotenu Kilcho Hashor Et Yerek Asadeh Ubalak ben Tzippor Melech Moav Velet Ha'i Vayishlach Malachim El Bilam Ben Beor Petora Asher Al Ha'Na'ar Eretz Bnei Amor Yikro Lo Vayomer Hine Yatza Mimitzrayim Hine Kisa Eten Ha'aretz Vo Yoshev Mimoli. Qui vient le chercher? Balak vient demander conseil aux Zikné Midian. Pourquoi les Zikné Midian, crois-tu? Eh bien, tout simplement, nous disent nos sages, parce qu'il est très en contact avec Midian, parce qu'il veut rivaliser avec Moshe. Or, Moshe a grandi à Midian. Donc, si Moshe a grandi à Midian, il faut pour contrer Moshe une force midianite. C'est donc les midianites qui vont dire, alors va chercher Bilam. Parce qu'entre Bilam et Midian, j'ai envie de dire, c'est cul et chemise. Dans la mesure où c'est à la fin de la paracha, Bilam qui donnera l'idée de faire tomber les Bnei Israël avec les femmes de Midian. En d'autres termes, tu vois que s'il n'avait pas été chercher si Balak n'avait pas cherché Bilam, il ne serait peut-être pas venu. Non, il ne serait peut-être pas venu. Il aurait tout simplement mis en place son plan de faire tomber les Bnei Israël uniquement avec les Bnotes Midian. D'ailleurs, entre parenthèses, et ça, ça peut émoustiller un petit peu notre curiosité archéologique, à l'endroit de Shittim, c'est-à-dire en Jordanie, face à Yericho, plus ou moins, dans l'endroit qui s'appelle aujourd'hui, en jordanien, en arabe, qui s'appelle Tel Dir Allah, a été retrouvé dans les fouilles archéologiques là-bas, un morceau d'argile recouvert de tite, donc de ce revêtement étanche, avec écrit des lettres dessus, et on a pu lire, et on a retrouvé là-bas une écriture qui dit « Bilam ben Beor yodea Elohim ». C'est-à-dire que là-bas, dans cet endroit qui s'appelle Shittim, qui semble être l'endroit où « Vayechel ha'am liznot et benot Moav », eh bien, on a retrouvé, en dehors de la Mikra, en dehors de la Torah, une source qui nous rattache cet endroit-là à Bilam. Il semblerait donc que Bilam avait préparé ça avant de venir maudire les Bnei Israël. Tous ces antisémites, tous siècles confondus, n'ont-ils pas tout simplement peur d'Israël en tant que représentants d'Hachem sur terre? Peur, oui, mais peur de quoi? Peur qu'ils ne leur laissent plus de place à eux. Et on va voir que c'est justement ça qu'il va falloir changer. On va y revenir, donc, Nathalie. Bekitsour, finalement, Bilam va venir. Il va venir parce qu'il a envie de faire tomber les Bnei Israël. Il sait très bien que s'il ne peut pas, il ne peut pas. Il sait très bien que ça dépend de lui, mais il dit que ce n'est pas les mêmes Bnei Israël qu'avant. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Lorsqu'il arrive, tout de suite, la première chose qu'il dit à Balak, c'est écoute, si je vois tous les Bnei Israël d'un coup, je n'arriverai pas, ça c'est sûr. Parce que Am Israël est le représentant de Hachem Echad, ou Shemo Echad. Dans leur dimension d'unité, je ne peux pas les battre. Donc je me dois d'essayer par trois fois d'aller voir une partie des Bnei Israël. C'est-à-dire quoi, une partie des Bnei Israël? Je vais à chaque fois essayer de les attaquer d'un autre point de vue. Parce que si je les prends dans leur globalité, eh bien, Bilam a certainement étudié le Rav Kook et il sait que, eh bien, lorsqu'on est Kulach Yafar Ha'edati Umum Enbach, eh bien, lorsqu'on est pris de manière générale, qui peut venir porter atteinte au Am Israël? Donc, il essaye à chaque fois de dire, amène-moi à cet endroit-là qui FS 4 ou tiré, car je veux le voir d'une manière particulière. N'oublions pas que Bilam fait partie d'un trio. Fait partie d'un trio de personnages qui s'enorgueille de pouvoir être les remplaçants ou les substantaires de Moshe Rabbeinu. Il y a trois hommes, à l'exception de Moshe, qui se revendiquaient être capables de donner la Torah, c'est-à-dire de représenter la parole de Dieu sur terre. Ces trois hommes, c'était Bilam, c'était Yitro et Yov. Bilam, c'est ce qu'on voit ici. Bilam, on nous dit qu'il est Yodea Da'at Elyon. Qui mieux que lui connaît la volonté du Créateur ? Yov dira, je veux que mes paroles soient inscrites dans le livre. La Torah. Alors que Yitro, très simplement, la première chose qu'il fait quand il retrouve les Bnei Israël, c'est leur dire comment il faut mettre en place le système qui va permettre de dévoiler Dieu. Les trois prétendent à ce titre-là de Noten HaTorah. Les trois sont des spécialistes, mais des spécialistes seulement à un niveau très particulier. Yov, quand on lit le livre de Yov, c'est un grand requiem de 40 chapitres sur la souffrance existentielle de l'homme. En d'autres termes, Yov est un spécialiste de ce qu'on va appeler Ben Adam Leatmo. Yitro va nous montrer comment on organise la vie dans la société, la vie de la cité. Yitro est donc un spécialiste de Ben Adam Lachavero. Et Bilam, avec son fameux Yodea Da'at Elyon, comme j'ai dit tout à l'heure, est un spécialiste de Ben Adam Lamakom. Ce sont les trois dimensions de relation à Dieu. Moi et moi-même, moi et les autres, et moi et Dieu. Puisque moi-même, j'ai été créé par Dieu, et puisque les autres, eh bien, c'est mon miroir de ma relation avec Dieu. Selon Job, certains avis... Ah, Job, selon certains avis, est une pure fiction. Mazé méchané ! T'as dit, Alex, mazé méchané, selon certains avis. Yov, Zébatanach, nous. D'ailleurs, qui a écrit Yov ? Eh bien, nous dit la Talmud dans le traité de Baba Batra qu'il y a trois que Moshe, en plus de la Torah, a écrit trois livres. Ça veut dire quoi, trois livres ? Il a écrit Yov, Sifro, Veparashat Bilam. Nous dit le Talmud, bon, Yov, c'est facile, c'est Yov. Sifro, c'est les 85 lettres qui forment un livre qui s'appelle Vayi Binso Aaron Vayomer Moshe. Ça, c'est le livre de Moshe. Sauf que quand on regarde dans la Torah, parachat de Baalotecha, pourquoi est-ce que Moshe dit cela? Parce qu'il vient de demander à Yitro de rester, les accompagner dans le désert. Yitro a dit non. Et donc, le parachat de Bilam, c'est notre... En d'autres termes, bien sûr que Sifro et parachat de Bilam, ça fait partie de la Torah, mais c'est le truc de Moshe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe, il peut être ces trois personnages. Car Moshe étant un spécialiste de Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero, Ben Adam Laatzmo. Donc Moshe, on s'en fiche que Yov, ça, il ait vraiment existé ou pas. D'après Rashi, il a existé, je m'explique. Mais on s'en fiche, il fait partie du Tanakh. Donc c'est une névoie qui parle à Moshe. D'ailleurs, on ne sera pas étonné de retrouver dans le Midrash que ces trois hommes, Yov, Yitro et Bilam, sont intimement liés avec Moshe, puisque ce sont les trois conseillers de Pharaon. Lorsque Moshe est bébé et qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le tue? C'est Bilam, Yov et Yitro. Rabotai. Bilam veut rivaliser avec Moshe, d'ailleurs il le veut. Quelque part, nos sages nous disent dans le dernier verset de la Torah, Velokam be Israël, Navi ke Moshe. Dans les derniers versets, pas le dernier verset. Nos sages nous disent, Lokam be Israël, Lokam, aval baumot kam, c'est Bilam ben Beor. C'est-à-dire, Bilam est aussi grand que Moshe en prophétie, voire peut-être même plus. Non, c'est pas n'importe qui le bonhomme. Mais il ne veut pas qu'Israël puisse s'exprimer maintenant qu'il va arriver sur la scène internationale. Alors, tu disais tout à l'heure, Nathalie, mais alors peut-être qu'ils ont simplement peur qu'Israël soit le représentant de Dieu. Oui, c'est sûr qu'ils ont peur, mais c'est une terrible erreur. Pourquoi c'est une terrible erreur ? Parce que de quoi ils ont peur ? D'être remplacés par Israël ? Alors qu'en vérité, le rôle d'Israël, c'est quoi ? Eh bien, le rôle d'Israël n'est pas de les supplanter. Le rôle d'Israël est de les relier. Le problème est que pendant toute l'histoire, le peuple juif a fauté. Pourquoi il a fauté ? Parce qu'il n'a pas rempli véritablement son rôle. Des fois, c'était Béchogeg et des fois, Bémézide. C'est-à-dire, des fois, tu n'avais pas le choix. Quand tu es en fin fond de l'exil, tu ne peux pas remplir ton rôle. En malasot, tu n'es même pas shogeg, tu es anus. Al-Mitzacheni, pendant l'exil, il n'y a pas vraiment de grands antisémites. Ou du moins, ils ne nous intéressent pas. Parce que de toute façon, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Mais à chaque fois qu'il y a eu un subresaut d'une possibilité de retour du peuple juif, juste après l'époque des Hachmonaïm avec Apion, juste après l'avènement, finalement, de... juste après l'avènement de Julien. Julien est l'empereur romain qui va, après Constantin, eh bien, tout simplement donner la permission aux Juifs de revenir en Eretz Israël, de reconstruire le Beth Amikdash. C'est un empereur romain qui ne veut pas du christianisme et qui donc, eh bien, redonne aux Juifs la possibilité de s'exprimer en tant que Juifs et reconstruire leur pays, Beth Amikdash. Ça n'a pas marché. Et juste après, arrive Augustin. Donc, pas rebelote. Omar, alors que les premiers musulmans arrivent, on redonne la permission aux Juifs de revenir en Israël pour mieux les persécuter après, mais quand même. Pendant l'Inquisition, on est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Torquemada. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment où les Juifs vont pouvoir revenir en Eretz Israël, nous dira le Harizal. C'est le moment. Tout commence maintenant. Et le 19e siècle marque le renouveau du peuple juif au niveau national. Donc, à chaque fois qu'Am Israël a une chance de retrouver son statut, le grand antisémite arrive. Maintenant, j'ai dit, des fois, c'était presque bémézide. Il y a aujourd'hui deux façons de ne pas remplir son rôle bémézide. Il y a la façon, parce qu'il faut comprendre une chose, le rôle du peuple juif, c'est de faire le trait d'union avec les nations. C'est de dévoiler Dieu au monde. Ce n'est pas de garder Dieu pour soi. Et il y a donc une double faute aujourd'hui du peuple juif par rapport à cela, qui va nourrir le grand antisémite. Le premier, c'est de dire, moi, les goyim, c'est l'homme à Nianoti. Moi, je reste entre juifs. Les goyim, c'est goyim. Tu n'as rien compris, mon ami. Mais tu n'as rien compris. Et quelles que soient tes connaissances en Rashi Tosfot, tu n'as rien compris. L'autre faute, c'est de dire, ah, mais moi, je veux devenir comme les goyim. Les goyim, ils te disent, mais attends, mais c'est pour ça que tu nous as pris la tête pendant 2000 ans? Pour être comme nous? Les nations du monde ont soif d'apprendre ce que l'âme Israël a à leur apprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent se relier à Dieu? Il est temps qu'on relève le défi. Pour ça, il faut être tout à fait conscient de qui on est. Et c'est exactement ce que va faire Bilam dans ses Nevuot. Finalement, Bilam arrive devant les Bnei Israël, il veut les maudire et les brachot sortent à la place. Je ne vais pas maintenant passer sur tous les versets. Au chapitre 22 du livre de Bamidebar, et nous dit Bala Ezra, voilà. Lorsque finalement Bilam arrive, voilà, excusez-moi, c'est moi qui ai dit n'importe quoi, chapitre 23, au verset Zayin, ça commence. Vaïssa Mishalo Vayomar Minaram Yan Cheini Balak Melech Moav Meharere Kedem Lecha Arali Yaakov Ulecha Zoamma Yisrael Ma Ekov Lo Kabo El Uma Ezom Lo Zaham Hashem Ki Merosh Tzurim Erenu Migevaot Ashurenu En Am Levada Dishkonu Bagoyim Lo Yitrashav Mimana Afar Yaakov Umispar Et Rova Yisrael Tamot Nafshi Mot Yesharim Utei Achariti Kamo. Ça, c'est la première névoie de Bilam qui nous dit bien qu'il vient de Aram, Aram Naharaim, de Haran. Et donc, il voit le peuple juif dans sa naissance, là-bas à Haran, chez son grand-père, Lavan. Et il comprend, il nous dévoile quelle est la première dimension fondamentale du peuple d'Israël. Ki berosh tsurim erenu ubi gevaot ashurenu ken am levadad ishkon ubagoim lo itrashav. L'erreur de ces gens qui disent, moi, les goyim, zelom chanez, zelom anyanati, c'est parce qu'ils ne savent pas lire la Torah. Et des fois, ils ont une grande barbe et un grand chapeau. Ils ne savent pas lire la Torah et ils pensent que quand il y a marqué, ou bagoyim lo itrashav, ça veut dire, on ne doit pas le itrashav bagoyim, lom anyanati agoyim. Mais l'hébreu du Tanakh n'est pas de l'hébreu moderne. Les mots ne veulent pas toujours dire la même chose. Lo mitrachev batanar, ça ne veut pas dire ça ne m'intéresse pas. Et là, ça veut dire lo ole bacheshbon. Il n'est pas dans le décompte des Béné Israël, des Goyim, c'est ça. Justement, pourquoi ? Pour pouvoir être avec tout le monde. Il y a 70 nations, d'après la Torah. Si le peuple juif fait partie des 70, eh bien, en fait, il n'est qu'une des nations du monde. Mais s'il ne rentre pas dans le décompte, alors il peut avoir un œil sur tous. Et c'est ce que nous dira tout simplement la fin de la Torah, dans le livre de Dvarim, lorsqu'on nous dit textuellement « Vayatsev gevulot amim le mispar bene Israël » dans la paracha de Haazinu. Que Dieu, il a mis le nombre de Goïm comme le nombre de Bnei Israël qui est descendu en Égypte, 70. En d'autres termes, la première névoie de Bilham vient nous dire « Am Israël a un rôle à jouer devant toutes les nations. » Pas au-dessus, pas en dessous, pas devant, pas derrière. Il est là pour avoir un rôle avec toutes les nations. Pour cela, pour réussir son rôle, il doit se rappeler qu'il y a une différence par rapport aux nations, et c'est cette différence qui doit leur enseigner. Quelle est cette différence ? On l'avait déjà expliqué dans un autre cours, que les nations ont un attachement naturel à leur territoire. Ils appellent leur pays leur patrie, leur mère patrie. C'est-à-dire une relation de parents-enfants, c'est-à-dire une relation naturelle. Dans le deuxième Néoum, dans la deuxième prophétie de Bilham, eh bien voilà ce qu'il nous dit. Donc cette fois, au verset Yutret, Vaïssa Mishalo Vayomar Kum Balak Ushema Zina Dai Benotzipor. Lo ish el vaychazev u ben adam vaytenachem vaytenacham sicha. Ahu amar velo yase vediber velo yakimena. Ine barech lakarti u barech velo ashivena. Lo ibit aven beYaakov velo ra amal beYisrael. Hashem elo avimo utruat melech bo. El motziam mimitzrayim ketoafot reem lo. Ki lo nachash beYaakov velo kesem beYisrael. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. Dans cette deuxième grande névoie, Bilham va nous révéler quel est notre secret. Secret qu'il va falloir enseigner aux nations. Bien sûr, ce n'est pas qu'on doit le garder pour nous. Ki lo nachash beYaakov ולא קסם בישראל. Le nachash dans la Torah, fait évidemment écho au Nachash du livre de Bereshit. Nachash, c'est quoi ? Nachash, c'est Mishé Menachesh. Nachash, c'est Akoach HaTivi. Le Nachash, c'est celui qui nous permet de dévoiler ce qui est inconnu. Ce n'est pas le serpent. Hein. Le Nachash, quand on dit dans le livre de la Torah, dans le livre de Bereshit, « Ve'anachash ha'yaharum mikol chayat ha'sadeh, asher bara Hashem Elohim. » Mazé. Le Nachash était l'animal le plus intelligent, ce que dit Onkelus, Vechava Vechakim. C'est qui l'animal le plus intelligent sur Terre ? C'est l'homme. Anachash, nous disait Manitou disait, Midrashet Yehuda Manitou, il est Nachash Zemiche Menachesh. Comme le Sapar Zemiche Mesaper, comme le Sarkan Zemiche Mesachek, Anachash Zemiche Menachesh. Le seul animal capable de deviner, c'est l'homme. Aval Nachash, c'est l'homme dans sa dimension la plus naturelle. Ce n'est pas encore Nefesh Chaya. Pour que l'homme devienne Nefesh Chaya, il lui manque quelque chose. Il lui manque la morale. Anachash, c'est lorsque l'homme ne se voit que comme un animal naturel très évolué. Et il fait vivre une société qui est tourné autour de la recherche de la nature et comment est-ce qu'on développe la nature le mieux. Comment on utilise cette nature et qu'on l'amène à une dimension ultime, le robot. Am Israël, il vient rajouter quelque chose au Nachash. Il vient ajouter ce qu'on appelle la Neshama. La différence au niveau Gematria entre Nefesh Chaya et Nachash, eh bien c'est tout simplement 72. Gematria du mot chesed, qui est la base de la morale. Hanachash, la neshama, ne peuvent être reliés que s'il y a une dimension morale derrière tout ça. Une dimension qui me relie au transcendant, puisque la morale m'écora dans le projet divin. Le secret du peuple juif qu'il doit enseigner aux nations, c'est qu'ils ne doivent pas se contenter d'être des animaux naturels, mais ils doivent s'élever au-delà de la nature. C'est le grand message que nous avons à donner aux nations. C'est pourquoi nous avons besoin d'être séparés, pas au-dessus, séparés, pour pouvoir avoir un message à porter. Entre parenthèses, eux, ils auront certainement aussi plein de... Pas certainement, ils ont eu plein de choses à nous apporter. N'oubliez pas que nous, on a pris des nations. Qu'est-ce que ça fait dans la Torah quand on parle de l'ikud nitzotzot akedusha? Ça s'appelle prendre des nations. Donc, sinon, on prend des nations, par exemple, qu'eux, ils n'aient pas à prendre des choses de nous. Et enfin arrive Bilam à sa troisième névoa. Sa troisième névoa, Iné. Vaïssa, dans le chapitre Kaf Dalet, verset Bet. Vaïssa, Bilam et Ena, Vayar et Israël, Shochen, Ishvata, Vatei, Alavroar, Elohim. Vaïssa, Meshalo, Vayomar, Neum, Bilam, Benobeor, Neum, Gever, Shetum, Ain. Neum, Shomeaim, Reel, Asher, Machaze, Shadai, Echezen, Ofelugnu, Enaim. Ma Tovu, Alecha, Yaakov, Mishkenotecha, Israël, Kinechalim, Tayu, Kigavot, Kisra, Kiganot, Alea, Nahar, Kaalim, Kaalim, Nata, Hashem, Kaarazim, Ale, Maim. יזל מים מדלייו וזרועו במים רבים וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו אל מוציאו במצרים כתועפות ראם לו יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחק קרא שכב כארי וכלהבים יקימנו מברכה ברוך ואורך ארור. Complètement tourné autour de l'eau. Bilam vient et nous dit Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Maze mishkenotecha, ve maze oalecha, oalecha ze oel moed, mishkan ze mishkan shilo, ze a Torah, shemeshula le maim. La première névoa de Bilam vient nous dire Am Israël, te dou lachem, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes extérieur aux nations pour pouvoir avoir quelque chose à leur apporter. Pour pouvoir leur apporter ce quelque chose, il faut que vous nous rappeliez que nous avons une dimension supérieure à la nature, nous avons une dimension morale en tant qu'être humain. Maintenant qu'on sait ça, apportez-nous ce quelque chose. En Maïm et la Torah. Alors évidemment, ce n'est pas la Torah d'Israël, mais c'est la Torah Taoumot HaOlam. Il est temps de leur enseigner leur Torah pour qu'ils puissent eux aussi se relier à Dieu. Bilam, dans ses névoot, nous redévoile, au cas où on l'aurait oublié, quel est notre rôle. Mais avant de faire ses névoot, Bilam était en chemin pour ses névoot. Et là-bas, il était avec son ânesse. Et au milieu du chemin, l'ânesse voit quoi ? Je reprends, cette fois je reviens en arrière, désolé, ce n'est pas chronologique aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi. Finalement, lorsqu'il arrive, et que, enfin, il est en chemin, il voit la neige, et là, qu'est-ce qui se passe ? Iné, nous sommes cette fois au chapitre donc 22. Veicharaf Elohim ki olech ou, au verset 22, ki olech ou veitiatsev malach Hashem baderech le satan lo, veu rochev al atono ushne ne'arav imo, vatere haton et malach Hashem nitzav baderech vecharbo shlufa beyado. ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בילם את האתון להטוטה בדרך ויעמוד מלאך השם בשמאל בשמאל הקרמים וגדר מזה וגדר מזה ותראה האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר ותלחץ את הרגל בלעם אל הקיר ויוסף להקוטה ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותראה האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם ויחרף בלעם ויח את האתון במקל. Ils avancent et l'ânesse voit un ange. Mais il a une particularité, cet ange. Il a une cherev shloufa, une épée sortie de son fourreau. Est-ce que ça nous rappelle quelqu'un, ça ? Un malach avec une épée ? Mais oui, Et bien sûr, c'est le malach du livre de Bereshit que Akadosh Baruch Hu va mettre en place à l'entrée du Gan Eden, Lishmor et Derech Etz Achaim. Etz Achaim, c'est la Torah. Torah, c'est le dévoilement de Dieu. En d'autres termes, ce malach est là pour montrer quel est le projet de toute cette histoire-là. Derech Etz Achaim. Et lorsque finalement la Hatton le voit, elle a peur, elle est... Bilam la frappe. Vaiftach Hashem et pi Hatton. Vaiftach Hashem et pi Hatton. Vazma. Ine. Vatera Hatton. Vaiftach Hashem et pi Hatton. Vatomer le Bilam. Mesiti lecha ki kitani. Ze shalosh regalim. Vaomer Bilam la Hatton. Ki italalt bi. Italalt bi. Vous vous rappelez, on a commencé le cours en posant la question, mais quelle est cette carte de visite bizarre de Dieu ? De dire « italalti b'mitzraim ». La notion de l'italel arrive deux fois dans la Torah. « Italalti b'mitzraim » et ici. « Italalti bi ». On a dit persécuté au départ, mais c'est faux. De dire « Abenu b'chaye ». « Mazé l'italel ». ».« Shoresh l'italel zé illa ». ».« Ain lamed hei ». ».« Illa ». C'est une cause. Petach Eliyahu anavi zachur latov antehu illat ha'ilot vesibat ha'sibot. It alalti, grammaticalement parlant, ça veut dire ani afarti le'ila. Voilà ce que tu raconteras à tes enfants, à tes petits-enfants quand tu sortiras d'Égypte. Tu leur diras dans toutes les générations que moi, it alalti b'mitzraim. Alors en Égypte, ils pensent tous que les divinités sont des causes. Annie, je leur ai montré dans les diplés que je suis la cause de toutes les causes. It halalti afarti le illa. Bilam dit à son Hatton, toi tu as vu le malach ? Moi je ne l'ai pas vu. Malach Hashem, it halalti bi. Tu es devenu plus illa que moi, puisque toi tu as compris quel était véritablement le rôle de toute cette histoire-là. Il est très possible que ce soit à ce moment-là que Bilam comprend quel est véritablement l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Bilam n'arrivera pas à maudire les Bnei Israël, il n'arrivera pas à faire son bon antisémite. Alors, puisqu'il n'arrivera pas par les idées, il essaiera de faire tomber les Bnei Israël autrement. Mais vous comprenez bien que faire tomber les Bnei Israël, ce n'est pas facile. On peut, dans le combat des idées, mais là, ça n'a pas marché. Donc, on peut leur demander de faire stam des avérotes, d'être stam méchant. Ouais, c'est pas juif, tout ça, et certainement pas après ce qu'il vient de dévoiler. Donc, il va essayer de faire tomber les Bnei Israël d'une autre façon, en utilisant leur grand point faible, la grandeur. Parce que des fois, vouloir être trop grand, ça peut te faire tomber. Et c'est exactement ce qu'il va mettre en place dans la fin de la paracha. Un piège de grandeur pour les Bnei Israël. Piège dans lequel, malheureusement, on va tomber. Mais comme ça sera le sujet de la fin de notre paracha, mais surtout du sujet de tout le début de notre deuxième paracha de la semaine prochaine, eh bien, nous verrons quelle a été cette deuxième tentative la semaine prochaine. Et oui, aujourd'hui, c'était en deux épisodes. Donc, à bientôt pour la suite des événements. Shabbat shalom à tout le monde.